Fidèle auditeur de l'émission Patara, bonjour et surtout bienvenue dans Patara, votre émission politique de Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, nous débattons de la crise sécuritaire et la proposition de la conférence nationale souveraine souhaitée par l'opposition. Comment sortir de l'impasse? La question mérite bien d'être posée à l'approche des élections de 2020. La situation sécuritaire se détériore avec les groupes armés qui se renforcent davantage. Certains acteurs politiques sont pessimistes et exigent le désarmement des groupes armés avant les consultations populaires. L'apport de la communauté internationale devient non négligeable. La MINUSCA entre en jeu et frappe les positions des éléments des 3R, mouvement signataire de l'accord de paix du 6 février 2019. Est-ce suffisant pour réduire la capacité de nuisance de ce mouvement armé? Beaucoup sont ceux qui saluent cette initiative, mais la question du bilan de l'opération reste néanmoins posée. Après Birao, les localités de Bangao, Lioto ont encore connu un pic de violence suite aux affrontements des anti-Balaka et les éléments de l'UPC laissant un cortège de morts et des blessés. Contre toute attente, le Front uni pour la défense de la nation, dans un mémorandum remis au pouvoir public, souhaite une conférence nationale souveraine. Option rejetée en bloc par le pouvoir de Bangui. Question, quels sont les enjeux de cette conférence nationale souveraine peu après le forum de Bangui? Après la frappe des éléments des 3R, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Fatah à être en première ligne de la sécurité à Kui? Les 3R ne sont pas les seuls à violer les dispositions de l'accord. Quid alors de l'UPC qui contrôle la Waka? Beaucoup de questions au menu de cette émission. Pour en débattre, nous recevons Farid Teiroka Shabazz, porte-parole de Ezingo Biani et représentant du mouvement Chemin de l'Espérance. Monsieur Teiroka Shabazz, bonjour.
Bonjour à vous.
Nous avons aussi Monsieur Mamat Zakari, ancien conseiller national de transition. Il n'en demeure pas moins qu'il ne s'écarte pas de la politique. Monsieur Mamat Zakari, bonjour.
Bonjour Monsieur Jean Kouenou.
Nous avons aussi Jean-Christophe Baïna, ancien chercheur et observateur de la vie politique centrafricaine. Monsieur Jean-Christophe Baïna, bonjour.
Monsieur JFK, bonjour.
Au centre du débat, appelez-moi Jean-Fernand Kouena. À la technique, Gabriel Trésor Yenimati. Émission Patara, c'est tout de suite. Ouvrons cette émission par vous, Monsieur Teiroka Shabazz. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier une conférence nationale souveraine dès lors que nous sortons fraîchement du forum de Bangui avec ses panoplies de recommandations qui jusque-là ne sont pas encore vidées dans la mise en œuvre?
Monsieur Kouena, je vous remercie pour cette question, parce que c'est une question d'importance névralgique. Pourquoi? Comme vous le savez, depuis le 30 mars 2016, nous sommes dans une crise qui s'est rajoutée à une crise. Nous sommes dans une impasse politique, ça je pense que tous les observateurs le reconnaissent. Nous sommes dans une impasse sécuritaire. Ça je pense que les éléments, les données objectives le montrent, puisque 85% du territoire sont sous le contrôle de groupes armés.
Quand la constitution... Mais aujourd'hui, la situation a quand même considérablement évolué avec la prise de certains territoires contrôlés aujourd'hui par les FACA.
Ah bon?
Le redéploiement...
Vous me le faites découvrir, parce que je vois la situation de Birao, je vois la situation de Mingala, je vois la situation de Kui, donc je ne vois pas de progrès en ce sens-là. Je pense qu'il y a encore des Centrafricains qui meurent parce qu'ils sont Centrafricains. Mais en tout cas, revenons par rapport à la question que vous m'avez posée. Vous savez que la constitution qui a été promulguée met en avant les principes de la démocratie. Et dans les principes de la démocratie, il y a forcément ce qu'on appelle le respect strict, l'observation stricte de la Constitution. Mais qu'est-ce que nous voyons depuis que le chef de l'État a pris fonction? Nous voyons des violations systématiques, et je dirais même systémiques, de la Constitution. Je prends des exemples clairs que tout le monde a vus. Le 15 juin, Ezingo Biani, plateforme citoyenne, organise une manifestation. Quelle est la réponse de ce pouvoir? C'est de tirer à balles réelles sur des manifestants qui manifestent pacifiquement sans armes. Ça, c'est une grave violation de la Constitution et des droits publics des Centrafricains. Nous avons été empêchés également de nous réunir. Ça, c'est un droit fondamental. L'article 10 de la Constitution nous donne ce droit-là. L'article 15, pour pouvoir manifester pacifiquement. L'article 14, pour pouvoir nous exprimer. Donc, vous voyez qu'il y a une violation systémique. Et vous avez rappelé dans votre entame que le chef de l'État, après avoir pris connaissance de ce mémorandum que la plateforme Ezingo Biani, qui représente plus de 30 entités, quelle a été sa réponse? Sa réponse a été, en tout cas, à mon sens, un coup de tonnerre dans la démocratie. C'est de dire, Ezingo Biani, ce sont des gens qui sont illégitimes, illégaux, fouteurs de troubles. Donc je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut faire avancer la démocratie. La démocratie nécessite le calme, la sérénité, le consensus. Nous avons vu nos voisins immédiats. Le président Paul Biya, qui a été soumis à la pression des groupes rebelles, sécessionnistes. Il a frappé militairement, mais il est arrivé un moment, il a dit non. Il faut qu'on se réunisse autour d'une table, tous les Camerounais, et qu'on se discute entre nous. Nous avons vu les décisions qui ont été prises par le président Biya, qui a arrêté toutes les poursuites contre les personnes qui se sont soulevées contre lui, ce soit militairement ou politiquement. Nous avons vu également au Bénin, le président Pratis Talon, qui a même empêché l'opposition, plus de 80 partis politiques, d'aller aux élections. Il a même brutalisé l'ancien président de la République, le président Nicéphore Soglo. Mais qu'est-ce qu'a fait dernièrement comme décision le président Talon? Il a invité l'ensemble de la classe politique, de l'opposition, à discuter. Et c'est ce que nous demandons au chef de l'État. Nous sommes des Centrafricains, nous avons le droit de participer activement à la vie de notre société. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le débat se cantonne à une dichotomie entre le pouvoir public et des groupes armés, et de surcroît des groupes armés dont certains sont des groupes armés étrangers? C'est absolument une hérésie. Stop à la violation de la Constitution, stop à l'exclusion systématique des Centrafricains dans la résolution de la crise centrafricaine.
En suivant votre développement, j'ai envie de vous poser la question: en quoi la Conférence nationale souveraine apporterait, va être, quel est le contenu au fait de cette Conférence nationale souveraine, et en quoi cette conférence peut aider à ce que la Constitution soit respectée en République centrafricaine?
Effectivement, la Conférence nationale souveraine que nous demandons de nos voeux est absolument importante. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui face à un régime qui, bien évidemment, dans son ADN politique, est consubstantiellement mêlé à des régimes de corruption antidémocratique. Et donc, il faut aujourd'hui que la population centrafricaine, les forces de nation se réunissent pour faire une restauration démocratique et constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre fin à la question des violations systématiques de la Constitution. Et il faut que demain, les dirigeants de ce pays se conforment strictement à la Constitution. Et je pense que le dernier point, qui n'est pas des moindres à mon avis, c'est qu'il faudrait que les solutions de la crise centrafricaine soient des solutions qui émanent des Centrafricains qui ont la science de leur pays. Parce que, voyez-vous, depuis que le président Touadéra est aux affaires, pas une semaine, pas un mois qu'on a des visites de Conseil de sécurité nationale, visites de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes téléguidés à l'extérieur. Nous n'avons même plus la main mise sur notre propre avenir. Donc la Conférence nationale souveraine permettra justement de remettre les choses sur la table et de rabattre les cartes pour que demain nous puissions reprendre non seulement le contrôle de notre destinée, mais que nous puissions aussi discipliner nos dirigeants qui prennent beaucoup trop de liberté avec la Constitution, comme le fait actuellement le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra.
Monsieur Mamad Zakari, vous venez de suivre Monsieur Théo Kachabas dans son développement. Vous étiez au Conseil national de transition. Cette question avait été posée avec beaucoup d'acuité. Les Centrafricains ont répondu à l'appel du Forum de Bangui et se sont exprimés. Pensez-vous aujourd'hui qu'une Conférence nationale souveraine sera une panacée au problème ou un pis-aller?
Merci beaucoup, Jean-Fernand. Pour moi, la question, c'est bien beau de lancer les idées, les bonnes idées, si ça peut amener la paix ou redresser la République centrafricaine. Le problème aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une conférence nationale, c'est-à-dire souveraine, ça va dégager quoi? Une transition. Et lorsqu'on parle de transition, il faut un financement. D'abord de l'État, des institutions, jusqu'à la sortie, jusqu'à la mise en place peut-être d'une nouvelle élection, je ne sais pas si ça va encore être d'une nouvelle constitution. C'est tout un tas de démarches qui ne va pas à seul, parce que ça a un coût aussi financier énorme. Et la question que je me pose, est-ce que la communauté internationale, ou nous, Centrafricains, dans notre grenier, dans notre trésorerie, est-ce qu'on a quelque chose vraiment pour engager un peu cette conférence nationale souveraine? Pour moi, il peut y avoir à un moment donné aussi, ce que je voulais seulement souligner, c'est que le chef de l'État doit prendre en compte toutes les options. Et la meilleure des choses, c'est d'appeler cette plateforme des partis politiques et de la société civile pour voir avec eux. Vous dites conférence souveraine, mais quelles sont les modalités, les faits, les ceci, qu'il y ait une discussion au sommet, parce qu'on ne peut pas rester un peu figé, chacun dans son coin, et qu'on se donne des coups de poing qui ne profitent à personne. Parce qu'avec tout ça, imaginez que c'est nous qui payons le prix.
Donc, si je vous comprends bien, aujourd'hui, la Conférence nationale souveraine, c'est une manière détournée de l'opposition d'obtenir de la transition que le pouvoir ne veut pas.
Mais il y a un mandat Moi, je suis constituant. On a mis en place une constitution. Cette constitution, elle est valide. Il y a un mandat avec une échéance qui est là, qui va jusqu'à 2020. Le problème maintenant, j'avais écouté le chef de l'État qui disait il fera tout pour que les élections puissent se tenir. Mais moi, la question que je me pose, elle se tiendra comment? Parce qu'aujourd'hui, si on voit ce qui s'est dégagé dans ce qui est même débattu par le Front uni pour la défense de la nation, c'est même la remise en cause de l'accord de Khartoum. Mais l'accord de Khartoum, ça s'est installé sur quel schéma, sur quelle base? Vous avez un président d'une commission paix et sécurité de l'Union africaine, Charghi, qui est un ancien ambassadeur d'Algérie en Russie et qui aujourd'hui gère ça à un moment donné où est la place de cette société Wagner. Donc il y a tout des en dessous qu'on ne comprend rien. Et de deux, si on prend même l'accord sur les 21 segments du gouvernement et les 10 points des groupes armés, il y a une incohérence totale dans l'application. Parce qu'il y a d'autres parties de cet accord qu'il fallait aller encore vers l'Assemblée nationale pour valider des dispositions pour son applicabilité. Et donc ça pose un problème aujourd'hui. La crainte un peu de beaucoup de gens, c'est que à la longue, est-ce qu'on va aller à l'élection avec des groupes armés? Est-ce que les leaders des partis politiques peuvent aller se projeter dans les provinces pour aller faire campagne? Toutes ces questions, est-ce que la population ne sera pas aussi terrorisée, terrée, la crainte aussi d'aller aux urnes? Est-ce qu'il y a beaucoup de questionnements que le gouvernement doit prendre en compte et réfléchir pour que les échéances ne nous amènent pas à un cul-de-sac où il fallait maintenant créer? Parce que là, qu'est-ce qu'on cherche? Ce sera un vide juridique, qu'il va encore faire une relecture de la Constitution, et ainsi de suite, ça va être un tintamarre qui n'aura pas sa place dans notre pays.
À vous écouter, vous êtes dubitatif, vous prenez votre recul de la Conférence nationale souveraine, vous êtes aussi dubitatif de la situation sécuritaire qui ne s'y prête pas. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, Ezingo est en droit de demander une Conférence nationale sécuritaire parce qu'on ne peut pas organiser les élections dans ces conditions, on va droit au mur?
Le mot conférence nationale souveraine, mais c'est bien beau de le poser, mais derrière ce mot, il y a toute une machine qui se met en marche. Aujourd'hui, je préfère que Ezungo Biani alerte ou bien donne sa vision aussi à l'opinion nationale. Voilà, dans cette conférence souveraine, parce que lorsqu'on dit conférence souveraine, il y a des décisions qui vont être prises pour peut-être une échéance dans la transition, la mise en place d'un conseil national de transition, la mise en place d'un gouvernement de transition, ainsi pour aller aux élections. Et là aussi, est-ce que d'ici là, dans cette conférence souveraine, ça va dégager quelque chose qui va désarmer les groupes armés pour que l'État puisse aussi avoir sa projection, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de questionnements. C'est bien beau, mais pour moi, on vient de très loin. Et on est aussi en train d'aller aussi un peu aussi très loin dans des erreurs politiques, dans des appréciations qui aujourd'hui posent un problème réel. Parce qu'il s'agit aussi de notre destinée aussi qui est en jeu. Donc pour moi, je préfère, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, que le chef de l'État, comme il le fait souvent, on appelle les forces vives de la nation pour essayer un peu de discuter des choses. Ce sont des acteurs majeurs, ces gens, il ne faut pas les sous-estimer. Ce sont des partis politiques, ce sont des hommes politiques, ce sont des gens voilà, de la société civile. S'ils disent quelque chose, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de dire que non, tout va bien et pourtant rien ne va du tout, il faut prendre aussi de la hauteur politique pour dire que bon voilà, qu'est-ce que vous voyez qui ne va pas? Ils vont faire les griefs de leurs remarques sur cette crise qu'on est empêtré là-dedans, parce que moi je me suis dit, la transition, on a donné la paix sur un plateau. Il y avait une mauvaise gestion de la politique qui aujourd'hui fait qu'on va droit au mur. C'est quoi? On parle du changement, mais le changement a amené l'exclusion. Il y a des gens aujourd'hui qui ne se retrouvent même plus. Et lorsqu'on exclut, on dit changement, mais qu'on ne change rien, ça pose un problème. Donc il y a un dégringolade très immense, parce que si moi je vois la transition, je vois le segment, depuis 2013 jusqu'à la fin de la transition, le nombre de morts de 2016 jusqu'à 2019, mais c'est fou! Il y a beaucoup de régions même qui avant étaient stables, Bangassou, Pawa et consorts, qui aujourd'hui, le tissu social s'est carrément effondré. Donc, il y a du travail, donc il y a une responsabilité quelque part qu'il faut aussi savoir écouter.
il y a une responsabilité qu'il faut écouter. Monsieur Jean-Christophe Baïna, vous qui observez la vie politique en République centrafricaine, en écoutant les arguments des uns et des autres, quel est votre avis de la conférence nationale souveraine demandée aujourd'hui par le Front Uni et Zingobien?
Monsieur GFK, avant de prendre la parole, je voudrais m'incliner sur la mémoire de tous ceux qui ont eu à perdre la vie au nom de la démocratie dans ce pays. Ça fait un bout de temps où je n'ai pas voulu militer. Je suis un ancien de 79. Depuis 79 jusqu'à nos jours, beaucoup de mouvements ont vu le jour pour chercher à améliorer le sort des Centrafricains. Mais tous ces mouvements n'ont profité à ceux qui recherchent leurs intérêts. En rapport avec le discours de la Bolle, avec Mitterrand, voyez-vous, il y avait cet engouement de conférence nationale souveraine. Où en sommes-nous dans la sous-région? Où en sommes-nous?
Mais la conférence nationale souveraine a permis à la RCA d'accéder à la démocratie avec la déclaration du magistrat Guéret, quand même.
Mais oui, la démocratie. Mais c'est pour ceux qui parlent de la démocratie. Mais pour les autres, pour nos parents qui sont dans l'arrière-pays, pour eux, la démocratie, c'est chercher à se cacher dans le sous-bois. C'est chercher à vivre au quotidien. C'est chercher à ne pas mourir, à survivre. Or, monsieur le journaliste, oui, je ne connais pas les intentions des uns et des autres. C'est pourquoi je ne m'engage pas sur ce terrain-là. Lorsque nous voulons parler de conférence nationale souveraine, pourquoi ne pas exiger de ceux qui nous gouvernent de revoir leur copie, de nous inviter à nous rasseoir de nouveau et de voir ce qu'il y a lieu de faire et ce qui peut être amélioré pour le sort du Centrafricain lambda? À mon humble avis, conférence souveraine nationale, d'accord, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais ce que je souhaiterais, monsieur le journaliste, de demander aux uns et aux autres, bon, de chercher une plateforme d'entente, de sauvegarder ce qu'il y a lieu de sauvegarder et d'aller de l'avant. Mais nous tournons en rond.
Donc, si je vous comprends bien, c'est de ressusciter les recommandations et les forums de Bangui et de trouver ce qui peut aujourd'hui avancer la République et laisser de côté la conférence nationale souveraine.
Pourquoi pas, monsieur le journaliste? Parce que là où nous sommes là, nous avons besoin d'avancer, d'améliorer le sort du Centrafricain. Bon, bientôt il y a des échéances électorales. Pourquoi ne pas aller vers ces échéances? Mais avant d'y arriver, mais nous n'allons pas tomber dans les échéances les pieds joints. Il y aura du travail à faire. Et ce travail, c'est la recherche d'un consensus. Moi, dans le travail que je fais, je cherche toujours l'idéal pour nous aujourd'hui, Centrafricains. Ce n'est pas toujours reculer pour retomber dans le gouffre. Nous avons suffisamment tombé dans le gouffre, chers journalistes. C'est dans ce sens-là que je peux répondre à votre question.
L'idéal est d'avancer. Pensez-vous aujourd'hui, M. Chabaz, qu'avec la conférence nationale souveraine tant demandée par le Front Uni et Zingo, la RCA aura à faire un pas sur le plan de la démocratie, puisque nous en avons déjà connu la conférence nationale souveraine en 1991-1992.
Monsieur Poina, vous savez que la démocratie, c'est un système politique dans lequel c'est le pouvoir appartient au peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui discipline les dirigeants et non pas les dirigeants qui disciplinent le peuple. À quoi nous assistons depuis que nous avons ce régime en place? Vous avez vu que dernièrement, il y a eu ce dossier brûlant de la carte d'identité avec des prix exorbitants, mais encore le plus grave, qu'on puisse confier la confection des cartes d'identité à une entité dont le chef se montre reconnu comme un ancien membre d'Al-Qaïda. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement graves. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui, aujourd'hui, est soumis à la violence des mercenaires, des groupes armés, etc., puisse accepter que des actes administratifs souverains soient confiés à des terroristes? Ça, c'est un point, par exemple, sur lequel Ezekiel Berny demande à ce qu'on parle. Mais quelle a été la réponse du gouvernement? Non, on n'en parle pas. Quand on parle, par exemple, de la question de la nomination des chefs de groupes armés dans le gouvernement. Mais quand même, nous avons des études, nous avons quand même une constitution. La constitution, dans son article 31, est claire. Dans son article 29, est claire. On ne peut pas nommer à des fonctions de l'État des personnes qui ont pris des armes. On ne peut pas nommer à des hautes fonctions de l'armée ou de du service de sécurité des personnes qui sont étrangères. Ça, ce sont des choses que nous voyons sous nos yeux. Ce sont des violations flagrantes. Ce qui signifie quoi? Depuis que ces violations flagrantes de la Constitution ont été constatées, que des crimes ont été commis après l'accord de Khartoum, est-ce que vous avez vu le chef de l'État prendre une décision forte? Parce qu'on parle de sanctions. Mais les sanctions ne sont pas seulement militaires. Il y a aussi des sanctions politiques. Mais politiquement, quelles ont été les sanctions qui ont été prises par le chef de l'État? La première sanction, c'est déjà de faire sortir ces gens-là du gouvernement. Il ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est campé dans une attitude de violation systématique de la Constitution au nom d'une prétendue paix que nous n'avons toujours pas vue. Donc nous disons que le régime actuel n'est pas, dans son ADN politique, apte à mettre en place les recommandations du forum de Bangui. Il s'y refuse. Rien ne s'oppose à ce que Touadéra aujourd'hui mette en application ces recommandations. Pendant un an, rappelez-vous, il y a eu ce qu'on appelle l'Union Sacrée. Aucun parti politique d'opposition ne s'est opposé au chef de l'État. Au contraire, tout le monde lui a donné un coup de main pour qu'il puisse faire sortir le pays du chaos et du désespoir. Mais quelle a été son attitude? C'est de systématiquement aller contre la démocratie. Donc nous disons que la conférence nationale souveraine est une occasion pour nous centrafricains déjà de nous faire entendre, mais surtout cette conférence nationale, tout à l'heure mon frère Zachary nous disait quel est le contenu de cette conférence nationale. Évidemment, ça peut déboucher sur une transition, mais même si ça devait déboucher sur une transition, nous disons que ça ne doit pas être une nouvelle transition, mais une transition nouvelle. Dans le sens où ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que même la durée de cette constitution soit décidé de façon consensuelle. Il faudrait que la constitution actuelle qui soit en vigueur soit celle-ci que la transition, si elle devait déboucher, doit respecter. Nous devrions également mettre en place une feuille de route exigeante à ce gouvernement d'union nationale qui sera mis en place, qui sera inclusif pour la restauration de l'autorité de l'État, pour justement la question des déplacés. Donc, c'est-à-dire que ce serait un travail consensuel entre centrafricains. Et je le répète, nous ne pouvons plus supporter que chaque semaine, des entités étrangères, c'est bien, la communauté internationale, nous avons un contre elle. Mais quand même, nous sommes quand même des fils de ce pays, il nous appartient de réfléchir et de trouver des solutions idoines. Qu'est-ce qui empêche le chef de l'État aujourd'hui de discuter avec Ezengo Biani? Imaginez-vous que, comment un chef de l'État, dans la constitution de l'article 33, on nous dit que le chef de l'État, il est le garant de l'unité nationale. Mais quand, dans les discours des vindicatifs, vous qualifiez un pan de la société en disant que c'est des gens qui sont machiavéliques, des gens qui sont illégaux, qui sont illégitimes. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui il y ait l'apaisement national? Nous sommes prêts au dialogue. Nous avons fait des propositions au chef de l'État. Nous voulons dialoguer. Mais quand ce sont les groupes armés qui veulent dialoguer avec le chef de l'État prend absolument ses pieds, il court d'une vitesse incroyable pour discuter avec un Sidiki, pour discuter avec un Ali Daras. Mais quand il s'agit de discuter avec un centrafricain qui a des propositions concrètes, non, on nous taxe de criminels, d'illégaux, d'illégitimes, de machiavel, etc. Donc vous voyez qu'il y a un frein aujourd'hui, et le frein s'appelle Faustin Archange Touadéra.
Ok, le frein s'appelle Faustin Archange Touadéra, mais vous pensez que le fait de demander une nouvelle transition, est-ce que au sein du Front Uni et Ezengo, vous êtes des légalistes, vous respectez les délais prescrits par la Constitution? Là, c'est d'un, et de deux, aujourd'hui, en demandant une nouvelle transition, vous ne pensez pas que le Front Uni, Ezengo Biani, esquive l'exercice de la démocratie pour aller aux urnes et veut se cacher toujours derrière le petit doigt pour chercher des voies détournées pour accéder au pouvoir?
Merci beaucoup pour cette question, parce que vous savez que le pouvoir en place, et notamment le parti politique MCU, joue beaucoup sur cette ambiguïté en disant qu'effectivement, Ezengo Biani, ou bien du moins ceux qui demandent aujourd'hui qu'il y ait un dialogue, veulent essayer d'esquiver les élections ou bien veulent essayer de mettre fin. Mais écoutez, monsieur Kouina, la constitution aujourd'hui nous dit que effectivement le mandat du chef de l'État est de 5 ans. La constitution également a prévu des dispositions pouvant mettre fin au mandat du chef de l'État, des députés, des différentes personnes qui ont été élues. Si ces dispositions ont été mises en place dans la constitution, ça veut dire que il peut exister dans la gestion du pouvoir des dérapages. Et ces dérapages-là doivent être sanctionnés, doivent être corrigés. À l'heure actuelle où nous vous parlons, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, vous savez qu'aujourd'hui, il est soumis à une procédure de destitution qui a été lancée par Madame Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour vous dire que c'est la démocratie. La destitution, ce n'est pas un coup d'État. Ce sont des dispositions qui sont dans la Constitution. Ça veut dire, je prends un exemple simple pour que tout un chacun puisse comprendre. Imaginez-vous, vous signez un contrat avec un maçon qui vous dit, écoutez, moi, je veux que d'ici 5 mois, ma maison soit, en tout cas, prête. Mais si vous voyez qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, la maison penche, qu'elle va tomber, est-ce que vous allez attendre 5 mois pour maintenant faire la remarque? Ou bien est-ce que vous dites, écoutez, là, ça penche, il faut qu'on trouve une solution. Donc ça, c'est le numéro 1. Numéro 1, donc ce sont les dispositions constitutionnelles. Nous n'allons pas contre la démocratie, mais nous sommes pleinement dans la démocratie. Nous laissons toute chance au chef de l'État de pouvoir se défendre, mais il faut que nous dialoguons. Deuxième point, question qui concerne, est-ce qu'on veut esquiver les élections? Mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a une personne qui peut esquiver les élections, c'est le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, son taux d'impopularité dépasse même, c'est dans le négatif. Donc si aujourd'hui, il y a une personne qui n'a pas besoin d'élections, c'est bien lui, c'est pas nous. Mais nous avons un souci, parce que nous connaissons l'histoire. Nous avons vu comment, dans les différents pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée, etc., comment est-ce que les conflits post-électoraux ont amené des crimes de masse. Nous voulons anticiper. Aujourd'hui, il y a une réalité. Le 24 décembre 2020, le mandat de l'ANE prend fin. Qui va organiser les élections? Donc, on ne peut pas s'interroger sur ce vide juridique. Mais je pense que la politique, c'est d'anticiper les choses. Nous voulons aller aux élections. Nous voulons coûte coûte aller aux élections pour qu'on puisse donner la chance aux Centrafricains d'avoir un dirigeant qui soit à la hauteur. Mais nous ne voulons pas aller aux élections dans toutes les conditions d'insécurité actuelles. Ça, c'est un premier point. Au niveau de la ANE, nous avons un problème. Déjà, la loi organique n'a même pas été encore votée jusqu'à présent.
Ça fait l'objet de
absolument
la deuxième session.
Donc, ça veut dire que vous avez vu que nous avons un retard. Au niveau de la logistique, au niveau humain, au niveau financier, nous ne sommes même pas parvenus à atteindre ne serait-ce que 10% du budget nécessaire pour organiser les élections. Depuis 3 ans, on devait avoir un budget pour pouvoir actualiser les fichiers électoraux. Ça n'a pas été fait. Nous avons déjà 3 ans de retard. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons tous les curseurs qui sont dans le rouge, qui montrent que nous allons droit dans le mur. Pour éviter cela, il nous faut dès à présent, dès aujourd'hui, dans l'urgence, convoquer une conférence nationale souveraine, qu'on parle et qu'on évite justement de tomber dans les travers, comme on a pu voir par exemple en 2011 en Côte d'Ivoire ou d'autres pays.
Ok, monsieur Mamad Zakari, aujourd'hui, ces partis constitués de Ezingo Biani sont aussi représentés à l'Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est presque quasiment un silence et c'est maintenant la rue qui parle pour demander la conférence nationale souveraine. Est-ce que c'est une démocratie déviée à la base?
Avant de répondre à votre question, je prends d'abord la question de mon co-débatteur ici concernant la violation de la Constitution. Moi, je suis un constituant. L'esprit de la Constitution est là. Dans la Constitution, le chef de l'État a aussi un poids politique. Lorsque la politique se met, le droit s'éteint. Pyramide de Kessel, vous allez voir que les règles établies, lorsqu'il y a une situation gravissime, le chef de l'État prendre des mesures, même dans les négociations de Khartoum, on a dit accord politique. Et la politique, c'est l'avatar du droit. Ce que je tiens aussi à souligner, l'autre aspect, c'est quoi? C'est que si dans cette constitution qu'on avait mis en place, il y avait une charte de transition qui a géré la transition après la dissolution de la constitution de 2004. Et sur cette charte, on a travaillé sur une nouvelle constitution qui dit ceci. Dorénavant, toute personne qui prend les armes ou qui fait ceci, qui fait cela, n'a pas droit à ça. Mais elle n'est pas rétroactive. Donc si aujourd'hui, le chef de l'État, dans cet accord politique, amène aussi des compatriotes pour être dans un gouvernement un peu élargi, parce qu'il a d'abord, le gouvernement de Sarandi avait d'abord anticipé en faisant un cafouillage, n'est pas allé aux négociations, mais mettre automatiquement quelques représentants de groupes armés pendant un an, ça n'a pas marché. Il fallait aussi aller encore dans cette négociation qui a mené à cet accord politique. Donc sur ça, on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a une réalité centrafricaine qu'on refuse de l'admettre.
C'est quoi alors?
c'est qu'il y a une cassure de notre société. Il y a de l'exclusion. Ces gens qui ont pris des armes, ils ont pris des armes. Mais pourquoi ils ont pris des armes? Pourquoi il y a ces négociations entre le gouvernement et ces groupes armés? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il fallait trouver une solution. Mais si à chaque fois, il fallait toujours revenir à la case départ qui a causé cette crise et qui continue à la criser, je vois qu'on ne s'attendra jamais.
Mais il y a quand même des enjeux politiques. Revenir à la case de départ, oui, mais il y a des enjeux qui aujourd'hui inquiètent l'opposition à ne pas accepter l'accord parce que les gens soupçonnent le chef de l'État d'être en deal avec ces groupes armés.
Non, ça, c'est, ce sont des conneries, ça. Vous savez, les choses ne se sont pas faites en cachette ou en catimini. C'est public. Et ça a été quoi? La CAC qui est là, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, il y a des... Non, vous savez, tout ce monde-là, nous n'allons pas dire que ces gens-là ne réfléchissent pas, qu'ils nous voient. Nous faisons partie du monde. Il y a des fois quelque chose qui nous dépasse, qui aujourd'hui, on vient à notre cheveu parce que nous sommes incapables d'assumer notre responsabilité lorsqu'il est écrit. Si c'est moi, M. Mama Zakari, si c'était moi sur cet accord, je dois purement et simplement la déchirer. Et dire, Centrafricain, venons, mettons-nous sur la table, révision, mettons-nous ensemble, voyons qu'est-ce qui va se faire. On trouve des solutions et on le résout sans pour autant attendre l'emprise, comme avait dit tout à l'heure, ça dit mon petit frère, l'ingérence de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, on est coincé dans un carcan de la communauté internationale et des enjeux géopolitiques, géostratégiques qui dépassent même l'entendement du citoyen lambda centrafricain. Donc pour nous, il y a déjà une situation. Cherchons à trouver dans ce laps de temps de 10 mois une solution digne d'un centrafricain responsable,
donc
conscient.
Donc vous voulez l'élargissement de l'accord de Khartoum à la classe politique?
Non, mais le chef de l'État lui-même, il a reconnu qu'il y a des carences, qu'il y a une œuvre humaine, qu'on peut toujours l'améliorer. Mais le fond du problème, c'est de faire participer tout le monde. Lorsqu'on dit, on appelle les forces vives de la nation, le chef de l'État parle, quelques-uns donnent leur point de vue, et puis là, le gouvernement laisse à côté et fait ce qu'il va faire. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays sorti d'une situation post-conflit, et que la continuité aujourd'hui, moi, lorsque j'ai fait une projection, je me suis dit, mais on est encore tombé très bas. La cassure, elle est encore très profonde. Quelle solution? Les élections à ceux ne suffisent pas. On peut faire 1000 élections. Tant que le nœud même de notre crise, pourquoi il y a crise? Personne ne se pose cette question. On ne veut pas tel, on ne veut pas X, on ne veut pas Y, parce que. Mais on n'a jamais, même dans cet accord de Khartoum, il y a seulement des vœux pieux qu'on préambule. Et après, lorsqu'on prend les points, mais ce ne sont que des segments, des coquilles, que je peux dire que leur applicabilité pose un problème. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est la prise de conscience des leaders des partis politiques, la prise de conscience du chef de l'État et son gouvernement de dire que bon voilà, on va droit au mur, on ne peut pas accepter à ce que la communauté internationale ait une emprise sur nous, sur tous les plans. Mettez-nous à table, faites venir tous. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Et le comment des choses, je crois qu'on trouverait une solution centrafricaine, indépendante de l'emprise, parce que je vais vous dire une chose. Lorsqu'on a fait réunir les groupes armés à Bois, mais ils ont concocté quelque chose pour aller négocier comme revendication. Mais arrivé à Khartoum, que s'est-il passé? D'abord, tous ceux qui ont accompagné la délégation gouvernementale a été réduit dans une autre salle. Elle n'a pas son mot à dire. On prend ce document, on le met à côté. Chargui concocte quelque chose. La Croix, ils appellent chaque individu individuellement, on arrange et puis on met quelque chose, on les fait signer. Tous ceux qui, même, qui ont signé cet accord de Khartoum, est-ce qu'ils savent même qu'est-ce qu'ils ont signé si on leur demande que mais c'est quoi cet accord? Eux-mêmes, ils ne comprennent rien. L'application à Bambari a posé un problème, à Kakabandoro a posé un problème, et jusqu'à aujourd'hui, on tourne en rond. Cette dernière rencontre qui a été faite entre le gouvernement et le groupe armé pour une certaine évaluation. Mais moi, je le dis toujours sur les ondes en disant qu'on veut mettre en place des SMS sans pour autant recenser d'abord les éléments de ce groupe armé, qu'on ne sait pas s'il y a des étrangers là-dedans qui peuvent demain être des éléments dans cette force, et après ça, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Donc aujourd'hui, il y a un blocage, incompréhension, si cette délégation aujourd'hui, Union africaine, Nations unies qui viennent, et même qui accusent la CAC et d'autres chancelleries de la place de faire un blocage. On a un problème de fond.
Nous comprenons votre doute par rapport à l'accord de Khartoum. Monsieur Jean-Christophe Baïna a écouté tous ces éléments d'argumentation Ne pensez-vous pas que aujourd'hui la crise centrafricaine offre un spectacle de guerre de positionnement?
Guerre de positionnement, oui et non. Mais j'aimerais répondre d'abord au représentant des Zingobiani. Pour mon débatteur, c'est maintenant que j'arrive à le comprendre que Zingobiani est une plateforme de pression. Et le système en démocratie, c'est ça. Hein. Qu'on le veuille ou non, il y a des groupes de pression pour amener l'exécutif à regarder la réalité en face. La République centrafricaine se trouve à la croisée des chemins. Moi-même qui vous parle, avec mes étudiants, lorsque nous arrivons sur le problème de la responsabilité de l'homme centrafricain face à son avenir, nous nous posons des questions. On veut nous amener où?
Mais qui amène qui, finalement?
Mais donc, ce dont il est question, la communauté européenne que je ne connais pas, est-ce qu'elle est matérielle, immatérielle? C'est qui? Mais l'homme centrafricain, le centrafricain, il est concret. Il vit les réalités centrafricaines au jour le jour, dans sa chair. C'est pourquoi cette plateforme, c'est maintenant que j'arrive à comprendre sa préoccupation. C'est un groupe de pression. Et voyez-vous, quand l'exécutif ne cherche pas à voir sa population en face, ben, naturellement, il y a un groupe de pression qui sort. Parce que l'homme, de par sa nature, est méchant. Et ce groupe de pression va sortir pour amoindrir les angles et voir où on peut arriver.
Mais nous avons aussi d'autres préoccupations. Ce groupe de pression qui se constitue a perdu toute virginité de la scène politique. Ça regroupe beaucoup de gens qui ont, à un moment donné de l'histoire, gouverné et géré ce pays.
Mais oui, mais quand vous gouvernez, certainement vous aurez les mains sales. Mais quelqu'un qui n'a pas les mains sales, c'est celui-là même qui ne fait rien et qui est là tranquillement dans son coin et qui observe. Mais lorsque nous voulons nous cacher derrière la communauté internationale, nos problèmes resteront nos problèmes. Parce que nous allons dire ce que la conscience de la communauté internationale voulait entendre. Pendant ce temps, nous écrasons notre population. C'est la raison pour laquelle je reviens sur l'idée fondamentale que j'avais émise tout à l'heure, que la recherche du consensus, cette recherche-là doit se faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre la démocratie selon Aristote. Bon, là, ce sont encore des grandes idées que le paysan lambda ne peut pas comprendre. Mais l'ordre politique se fait par la violence. Et tous ceux-là même qui ont pris des armes et que nous voulons à tout prix répondre à leurs préoccupations par des cajolations. Mais cette cajolation ne résoudra pas nos problèmes. Et c'est dans ce sens-là que je peux vous répondre. Donc, pour me résumer, j'ai dit ceci. Là où nous nous trouvons en ce moment, c'est la recherche d'un consensus pour nous amener à nous comprendre les uns et les autres et de trouver une voie de sortie à nos problèmes. Voyez-vous, lorsque aujourd'hui une partie se lève pour revendiquer ses difficultés et qu'on veut l'écraser, mais on ne va pas l'étouffer. Le problème va rester tel quel. C'est dans ce sens-là, en répondant à votre question, pour moi, observateur de la morale en politique, parce que là, maintenant, il s'agit d'une morale en politique, c'est de revenir sans honte sur nos pas, d'appeler les uns et les autres, de poser des questions de fond, comme un autre débatteur tout à l'heure l'a dit. Et ce sont ces questions de fond-là qui peuvent nous sortir de l'ornière.
Oui, les questions de fond pour nous sortir de l'ornière. Aujourd'hui, pensez-vous que les débats de fond sont aujourd'hui évités et que seule la conférence souveraine peut nous amener à débattre des questions de fond? Et quelles sont ces questions de fond selon vous?
Monsieur Kouena, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut douter du manque de volonté politique du chef de l'État. Comme nous l'avons dit depuis maintenant 7 mois, que cette plateforme a vu le jour, nous avons fait des propositions, nous avons posé des revendications, nous avons posé des constats, nous avons cherché à dialoguer, à discuter avec les autorités. Toutes ces revendications, tous ces documents que chacun peut lire, ont été balayés volontairement par l'exécutif. Vous vous rappelez que le 30 septembre 2019, nous sommes allés remettre un mémorandum aux différentes institutions, dont notamment, bien évidemment, en premier lieu, la présidence de la République. Nous avons remis ça à la Semaine nationale. Le président de la Semaine nationale, l'honorable Gonbaba, a reçu. Et dans son discours liminaire marquant la rentrée parlementaire, il a rappelé que c'est une proposition sur laquelle les députés vont se pencher. Ça veut dire que en démocratie, ça se passe ainsi. Le chef de l'État est parti en mission pendant des semaines. Il est rentré. Il y a eu un grand mouvement social. Il rentre. Aucun mot dessus. Il y a aujourd'hui un mémorandum qui est sur sa table. Rien dessus.
Mais ça a été rejeté. Le silence vaut consentement, mais pour les pouvoirs publics ont carrément rejeté.
Bon, voilà. Donc, ça veut dire que vous avez 12 revendications. Sur les 12 revendications, on rejette. Donc, ça veut dire quand on demande qu'on veut de l'électricité, on veut de l'eau, on rejette. Quand on demande que les criminels de guerre qui ont continué à commettre des crimes après l'accord, on dit qu'il faut les enlever du gouvernement. Ça aussi, on rejette. Quand on demande que, effectivement, la question de la carte d'identité, qu'il faut confier ces documents-là, ou bien à la rigueur que même l'État crée une agence pour faire cela, ça aussi on rejette. Non, ça veut dire que toutes ces revendications qui sont légitimes, qui sont légales et qui proviennent de la population, ça aussi on rejette. On ne discute même pas dessus. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce gouvernement, ce régime-là n'est pas apte au dialogue avec les forces de la nation. C'est-à-dire que pour lui, le dialogue, c'est de coopter des gens qui lui plaisent et puis maintenant, et qui avalisent et qui signent et mettent. L'accord de Khartoum, je suis désolé de le dire, l'accord de Khartoum n'est rien d'autre qu'un copier-coller de l'accord d'Alger. Et qui était encore impliqué dans l'accord d'Alger? Monsieur Chergui. L'accord d'Alger aujourd'hui, au Mali, tout le monde sait que c'est un fiasco. Comment ce qui ne marche nulle part peut marcher ici en RCA où la situation est encore plus complexe? On ne peut pas continuer comme ça. Et nous disons en tant que Centrafricains, nous sommes des enfants de ce pays. Nous avons étudié. Nous avons l'intelligence de notre pays. On ne peut pas laisser Monsieur Chergui, Monsieur Lacroix ou monsieur je ne sais qui imposer des choses et puis continuer à soutenir le chef de l'État qui s'entête. Il a été élu par nous. C'est nous qui l'avons élu. C'est nous qui pouvons le démettre soit à la fin de son mandat, soit dans son mandat. Ça, c'est ce que nous dit la Constitution. On ne peut pas continuer aujourd'hui à vivre avec des scandales financiers. Mais imaginez-vous, moi j'ai vu le rapport de la Cour des comptes. On a dit que monsieur Dondra a fait un décaissement sans passer par l'Assemblée nationale de 225 millions. Qui décaisse à une personne comme ça. Ça, c'est l'argent de l'État. Imaginez-vous, Ezine Gbiani organise une marche pacifique pour la démocratie et pour remettre un mémorandum. On voit maintenant des gens, des groupes qui déploient de l'argent, 25 millions, 35 millions pour empêcher une marche qui est autorisée par la Constitution. Non, ça veut dire que c'est des gens qui s'opposent à la Constitution. Ces 25 millions ne peuvent pas servir à acheter des médicaments pour la population. Et ça, on ne doit pas parler. Imaginez-vous le président de la commission ressources naturelles à l'Assemblée nationale, monsieur Madamba, qui reconnaît dans une commission parlementaire, qui reconnaît avoir reçu des pots de vin de l'ordre de 40 millions. Et ça, on ne doit pas parler de ça. Ça, on doit continuer à gérer le pays avec des gens qui, par jour, se mettent de l'argent dans les poches. Non, je dis que ce n'est pas possible.
Mais ce n'est pas possible. Mais au sein des partis constituants, la plateforme Ezine Gbiani, il y a aussi des partis qui ont une représentation à l'Assemblée nationale. Absolument. Est-ce que ce jeu-là ne peut pas se jouer au niveau de l'Assemblée au lieu de la démocratie, que d'être joué au niveau dans la rue?
Très, très bien. Vous savez que la démocratie se joue non seulement dans l'Assemblée nationale, mais se joue également dans la rue. Ça, c'est la Constitution qui nous dit. La Constitution nous donne le droit, l'article 14, l'article 15, de se réunir. L'article 10, de se réunir, ça c'est autorisé. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est là le drame. Et c'est là le drame, parce que l'Assemblée nationale, une de ses fonctions, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, les institutions sont vérolées, parce qu'il y a aujourd'hui une ingérence de l'exécutif dans le législatif à travers un système de corruption active. Et ça, nous le savons. Et c'est ça qui fausse aujourd'hui la démocratie. Si au moins, il y avait cette séparation réelle du pouvoir, on pourrait dire oui, effectivement. Mais la réalité du terrain, c'est que nous voyons. Vous l'avez tous vu. Comment est-ce que les députés du RPR ont été achetés avec l'argent de l'État, débauchés? Ça, c'est le plus grand viol de la démocratie. Quand un parti politique prend le temps, de l'argent, de l'énergie, pour pouvoir investir sur des candidats qui gagnent les élections et qui arrivent à l'Assemblée, et que le pouvoir les achète, ça, c'est un viol inconcevable. Et c'est pour ça que nous disons que aujourd'hui, l'Assemblée nationale est fragilisée parce que l'exécutif, avec l'aide des mercenaires de Wagner, et ça aussi c'est un problème fondamental. C'est pas normal que nous qui sommes signataires du temps de l'OUA, des accords internationaux prohibant le mercenariat, que aujourd'hui le chef de la sécurité du chef de l'État est un mercenaire. Ça, c'est vraiment un scandale. C'est un scandale et la raison pour laquelle nous disons que la seule solution pour laquelle nous pouvons aujourd'hui parler de façon apaisée, c'est que nous convoquons une conférence nationale où la nation va s'asseoir. Parce que la Constitution, c'est la nation. Et quand la conférence nationale souveraine, c'est la nation également qui est là. C'est pas les partis politiques, c'est pas la société civile, c'est pas la communauté internationale, c'est la nation. C'est pour ça que nous disons Front uni pour la défense de la nation. Et quand on parle des Nations Unies, on parle pas de l'État uni. La MINUSCA n'est pas venue pour soutenir un État, il est venu pour soutenir une nation. Aujourd'hui, la nation est fracturée et fragmentée. Et nous disons que pour mettre fin à cette fragmentation, il faut aller au dialogue. Et nous disons même le dialogue inclusif avec les groupes armés centrafricains. Et que les conditions, parce qu'on dit DDRR, le dernier R c'est rapatriement. Nous devons dès maintenant penser aux conditions de rapatriement des groupes armés étrangers qui n'ont rien à faire en RCA. Et ça, ce sont les sujets de fond que nous devons traiter lors de cette conférence nationale souveraine que le chef de l'État refuse à tout prix d'aborder.
D'ailleurs, ces prises de position, ce sont peut-être les groupes armés qui tirent le gars de leur côté et qui peut-être avancent tout doucement. Après les tergiversations, la MINUSCA a quand même frappé les positions des 3R. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'apport de la communauté internationale est-il nécessaire pour aider à apaiser, à pacifier le pays avant qu'on aille aux élections, de tous les enjeux, comme on le dit?
Merci, monsieur Jean-Fernand. Le problème de la MINUSCA, c'est quoi? Les Nations Unies, lorsqu'elle envoie une force, qu'appelle-t-on cette force? Une force de maintien de la paix. Ce n'est pas une force d'attaque, elle n'est pas mandatée pour ça. L'autre aspect, c'est la fourmilière. Lorsque vous mettez un coup de boutoir sur une fourmilière, les fourmis se dispersent. Les frappes sur les 3R à Kouy et ailleurs, comme on a dit, ça réduit sa capacité de nuisance, mais or au contraire, ça augmente sa capacité de nuisance. Pourquoi? Tous les villages environnants, lorsque ces gens sont dispersés, qui garantit leur sécurité? Même dans les grandes préfectures, on est incapable de garantir quoi que ce soit, ni la MINUSCA, qu'on continue à tuer. Hier, avant-hier, on a tué un jeune qui travaille aux Nations Unies, à Kakabando, on l'a assassiné. Donc les morts, ça se compte chaque jour. Donc allez, parce que la situation de Pawa, à un moment donné, ça a créé un tollé général. La MINUSCA doit faire un geste pour montrer que voilà, elle est là. Mais le fond du problème reste entier. C'est qu'elle va, elle tire, elle disperse des gens groupés pour que ces gens puissent aller où? Là, ça pose un problème. Parce que si vous voulez réduire, mais finissez une fois. Ça ne sert à rien de dire qu'on réduit et le résidu, qu'est-ce que vous allez en faire? Ça pose un problème. Donc pour moi, soyons réalistes. Des gens ont signé des accords, on les frappe. C'est-à-dire qu'on est en train de déplumer cet accord avec des déclarations, des gens qui quittent même cet accord. À la fin, cet accord sera une coquille vide. Il y a une mission Union africaine, Nations Unies qui est déjà là ici à Bangui, qui va aller faire Birao, je ne sais pas pour quelle raison, qui a appelé le groupe armé à se retrouver ici, personne ne veut venir, qui accuse. Il y a tout un tas de cacophonies au sein même de cette fameuse communauté internationale. Je vais vous donner un exemple. On achète un véhicule blindé de 150 à 200 millions pour que un seul agent des Nations Unies puisse être en sécurité là-dedans. Or, cet argent peut construire une école, peut construire un dispensaire. Tout le fonds drainé par cette force de maintien de la paix qui devait servir à la République centrafricaine ne sert pas à la République centrafricaine. Donc, les gens sont en train de s'installer dans la durée. Mais nous, ce n'est pas là notre souci. Notre souci, c'est qu'on veut la paix et qu'on veut être indépendant sans que des forces militaires à la longueur de la journée défilent devant des enfants qui n'ont jamais vu une arme, qui n'ont jamais vu, c'est-à-dire ça traumatise, ça laisse, et ces enfants d'ici 20 ans, nous on va déjà partir, mais ceux-là qui viendront, ils vont trouver de normal la présence de cette force de maintien de la paix qui est partie au Liban. Elle était partie pour 6 mois, elle a fait 40 ans
le FINUL,
oui, FINUL. 40 ans. Et je ne parle pas du Congo ici. Hein?
La RDC.
C'est-à-dire ici à côté. Donc pour nous, chers compatriotes, chers frères centrafricains, prenons conscience de cette tentacule qui nous enserre. Il y a une génération qui est en train de partir, mais celle qui viendra, ce sera une génération de nains politiques qui ne comprendront rien dans la réalité des choses. Moi, cette force, lorsqu'elle frappe, ça c'est du cinéma. S'il y a une volonté politique de finir avec toutes les histoires de groupes armés, C'est 6 mois, on en finit, qu'on n'en parle plus. On parle d'autre chose. Mais le fond du problème, c'est que est-ce qu'il y a une volonté politique de part et d'autre? Non. Chacun joue ses intérêts. C'est un problème d'intérêt qui est là et c'est nous, population, qui payons le prix fort.
Ok. Monsieur Jean-Christophe Baïna, aujourd'hui, comprenez-vous la léthargie des forces armées centrafricaines à être en première ligne et à résoudre la crise que de compter sur la MINUSCA qui, en fin de compte, fait du fantasme en dissuadant les groupes armés qui rapidement arrivent à se reconstituer et faire du mal à la population civile?
Monsieur Jean-Fernand, je préfère vous répondre en disant que lorsque ceux qui nous gouvernent brandissent à ceux qui veulent les écouter que la FACA ne peut pas être opérationnelle à nos jours, c'est du leurre. C'est du leurre. Parce que, à bien écouter, monsieur le conseiller national de transition, s'il y a véritablement volonté politique de résoudre le mal centrafricain, nous y arriverons. Est-ce que nous pouvons y arriver par les armes? Oui et non. Parce que je vous parle du politique. Le politique, c'est ça. La loi lui donne la possibilité de résoudre des problèmes, si ce n'est pas par les accords de ceci et de cela, mais par la force. Et ça s'appelle une force légitime. Si déjà nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes au kilomètre 5, est-ce que nous pouvons les résoudre à Kagabandoro par la force? Je ne sais pas, mais c'est possible. J'étais en cours de récréation, je causais avec un sergent de la FACA comme ça, et je lui posais la question de savoir, mais quoi, ce petit maillon de la République dans la République au kilomètre 5 et puis vous n'êtes pas capable de le faire. Il me répond tranquillement en souriant que si ça dépendait de nous en 15 minutes, le mal centrafricain au kilomètre 5 serait résolu. En 15 minutes, allez-y comprendre. À Kwi, pourquoi il ne peut pas y avoir redéploiement de la FACA à Kwi? Mais c'est parce que ceux qui nous gouvernent n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Je vais vous citer un petit exemple à boire. Je m'amusais à écouter Ndekeluka comme ça un jour. On m'apprend sur les ondes que le détachement de la FACA à boire manque de carburant. Mais enfin, nous sommes dans quelle république bananière? C'est pourquoi je n'accuse personne. Mais je constate seulement que, au lieu d'acheter un véhicule blindé de, je sais pas moi, 300 millions, mais pourquoi ne pas commencer déjà par doter notre soldat, même par des armes de petit calibre? Pourquoi pas? Déjà, à ce niveau, il aura le sentiment, même d'aller en mission, de répondre aux vœux de la République. Nous ne lui donnons pas cette possibilité de se sentir dans la prédisposition de se mettre au service de son pays. Mais lui-même, il est d'abord de chair. Je vais rappeler un de mes professeurs, M. Julien Freud, comme ça, qui a réfléchi sur la politique, qui nous dit que la politique, c'est d'abord un art. Mais c'est un art pour la guerre, pour la guerre. Parce que dans la recherche de la paix, c'est dans ce sens-là que je peux vous répondre.
Ok, nous tendons vers la fin de notre émission. Monsieur Théo Kachabaz, votre dernier mot par rapport à cette question du déploiement des FACA et la résolution de la crise centrafricaine.
Monsieur Kouna, je voudrais rapidement revenir sur la question de ce qui s'est passé à Kwi. Je sais que pour certains observateurs, c'était un soulagement que voilà, les musiciens ont frappé, mais pour moi, c'était un sujet d'inquiétude gravissime. Ce qui s'est passé à Kwi est extrêmement grave. Le chef de l'État, rappelez-vous, avec son mantra, nous dit « Je ne ferai pas la guerre, même si on lève l'embargo, je n'achèterai pas d'armes, je ne ferai pas la guerre. » C'est la musica qui va s'occuper de notre sécurité, ce qui n'est même pas dans son mandat. Mais ce qui est encore plus grave, je dis, c'est que l'opération de Kwi a été décidée en toute discrétion, secret absolu. Ce sont les forces spéciales qui ont fait cette opération. Moi, j'étais dans les forces spéciales en France. J'étais dans le Daos. Je sais comment ça se passe. Si les forces spéciales de la MINUSCA organisent une opération et que sur le terrain, les gens sont capables de déjouer, d'anticiper, ça veut dire que déjà, il y a une très grande faille au niveau du renseignement militaire de la MINUSCA. Ça veut dire que la MINUSCA est infiltrée par les groupes armés. Et c'est extrêmement grave. J'ai entendu qu'un hélicoptère s'est écrasé. Aussitôt que j'ai entendu cette information, j'ai dit, il faut que j'aille consulter la météo ce jour-là. Consulter la météo, j'ai appelé des parents qui étaient à bois. Et effectivement, le jour en question, les conditions météo étaient très très bonnes. C'est alors que je me suis dit, non, ça veut dire que ce crash cache autre chose. Et c'est ainsi que nous avons l'information qu'effectivement, les groupes armés ayant déjà l'information ont tiré avec un Browning M2 sur l'appareil des Sénégalais, puis à leur nom, et pour vous dire que les capacités opératiques des groupes armés ont été démultipliées grâce à l'accord de Khartoum. Non, ils ont utilisé l'accord de Khartoum pour prendre du poids militairement. Et vous avez vu que dernièrement, le ministre représentant les 3R, Issabi, désavoue totalement son chef officiellement, Tidiki. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en face d'un groupe armé qui, aujourd'hui, ne répond plus de rien, qui a des capacités opératiques supérieures à la MINUSCA. Les FACA ont les moyens, parce que moi, je suis en relation avec les officiers de l'armée centrafricaine, entre porteurs de tenue. Je sais que nous avons les moyens opératiques de pouvoir arrêter ça militairement. Mais il y a un choix qui a été fait par le chef de l'État. Donc, il faut arrêter. Je dis aujourd'hui, personnellement, il faut arrêter de mentir à la population centrafricaine. Militairement, nous avons les moyens de résoudre ce problème. Mais le problème se pose au niveau politique.
Le problème se pose au niveau politique. Monsieur Mamadi Zakari, votre dernier mot pour la fin de notre émission.
Oui, vous savez, lorsqu'on fait une projection avec une force, quelque part, c'est quoi? C'est une section? C'est une unité? C'est un bataillon? C'est une colonne? C'est une brigade? Ou c'est un régiment? Donc, lorsque vous êtes face à des adversaires, mais ils sont petits, et que vous allez en offensif, le nombre doit compter, la puissance de feu doit être consistante. Aujourd'hui, on envoie 40 FACA, 80 FACA, agglutinés sur un véhicule pour faire diversion, pour montrer que voilà, nos forces se déploient. Lorsqu'on fait une projection, il y a aussi les tendances qui suivent. Est-ce qu'on a une tendance digne de ce nom ici qui suit les FACA? Lorsque vous tirez une arme sur peut-être 100 cartouches, il n'y a peut-être qu'une seule balle qui va peut-être toucher ou bien effleurer. Tout le reste, ce n'est que du bruit. Et est-ce que, quelle est notre capacité, notre réserve de munitions ou d'armes? Parce que lorsqu'on va en guerre, on perd des hommes, on perd des armes, on perd... Donc le fond du problème, c'est qu'on arrête de faire des projections pour montrer à la population que non, voilà, nos forces font... Aujourd'hui, nos forces sont prises en étau par la MINUSCA qui les protège au lieu de les laisser opérer.
Ok. Ainsi s'achève notre émission Patara consacrée à la crise sécuritaire et la proposition de la conférence nationale souveraine souhaitée par l'opposition. Quel est l'enjeu? Pour en débattre, nous avons reçu autour du plateau Monsieur Teroka Chabaz, porte-parole du mouvement Ezingo Biani, représentant du mouvement Chemin de l'Espérance du président Abdoulkarim Mekassoua. Nous avons aussi M. Mamat Zakari, ancien conseiller national de transition. Nous avons aussi autour du micro M. Jean-Christophe Baïna, enseignant-chercheur et observateur de la vie politique centrafricaine. Merci pour votre participation.
Merci.
Émission Patara, j'avais bénéficié de la complicité technique de Gabriel Trésor Yenimati. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.